Et bonjour tout le monde en ce 25 mai 2017. Je suis en compagnie aujourd'hui de Marc. Vous écoutez Puissance Maximale. C'est l'heure de parler Star Trek. Donc, bonjour Marc.
Bonjour, t'as-tu réinventé le titre « Parler Star Trek »
Ouais. Question de plus me faire... d'avoir plus de chances de me faire poursuivre par CBS si jamais ils traduisent leur émission de talk show Star Trek.
Ouais.
Ben surtout, ben ça se dit mieux vu que c'est au temps présent plutôt qu'au temps passé, mais bon.
Ouais, c'est sûr.
Ah, mais bon. Donc, ça fait une semaine qu'on a vu ce fameux trailer pour Star Trek Discovery. T'as toujours... tes impressions sont toujours les mêmes, toujours bien...
Ouais, mais j'ai vu pas mal l'image passer des nouveaux Klingons avec des cheveux. Alors, ouais. Je me dis, ah, c'est crédible maintenant avec des cheveux.
Ouais, non, c'est vrai, ça paraît beaucoup mieux avec cheveux.
Ouais, toujours avec cheveux, comme Bob. Toujours,
comme Bob avec cheveux, sauf que je pense pas que les Klingons mangent des pogos.
Ouais, on le sait pas. On le sait pas.
On le sait pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, aujourd'hui, une petite émission relativement tranquille. Quelques nouvelles. On a regardé un épisode qui aurait peut-être un lien justement avec ces Klingons qu'on a pu voir dans le preview pour Star Trek Discovery.
Peut-être,
on ne sait pas. Sinon, aujourd'hui, le 25 mai, c'est une journée bien spéciale, les amis, puisqu'il s'agit du International Geek Pride Day, donc la journée internationale de la fierté geek.
ça correspond avec un 40e anniversaire.
Un 40e,
assez important.
Assez important pour beaucoup de gens. Donc, il s'agit effectivement du 40e anniversaire de Star Wars. Donc, Star Wars qui a été lancé le 25 mai 1977. Donc, il rejoint... club relativement sélect de séries de science-fiction.
Culte.
Oui, culte et âgé d'un âge relativement vénéré.
Respectable.
Respectable. Donc, aussi, en fait, ce n'est pas seulement que le Star Wars Day, mais en fait, c'est aussi Towel Day, donc pour les amateurs du guide galactique. Si vous avez vu quelqu'un se promener avec une serviette aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il s'agit aussi de International Towel Day, donc la journée internationale de la serviette, en l'honneur du défunt Douglas Adams, qui est en fait la première célébration de cette fête-là était en 2001. Deux semaines suite à sa mort, les gens ont commencé à ont décidé que cette date était aussi pour les fanatiques de serviettes. Donc,
assez louche. J'imagine me promener dans la ville puis voir quelqu'un avec une serviette.
Ah, écoute. C'est toujours pratique d'avoir sa serviette avec soi. Ça peut servir à beaucoup de choses.
Malgré que l'été, je penserais peut-être qu'il va vers une piscine.
Ouais, ouais. Sûrement. Ou peut-être sur une plage ou quelque chose comme ça. Donc... ce que c'est on. Donc,
t'es quand même le don pour sortir une anecdote comme ça, hein?
Ah, écoute. D'ailleurs, si vous voulez savoir si aujourd'hui est bien et bien la date du Towel Day, vous allez sur isittowelday.com et ça va vous le dire. Il y a plusieurs petits sites web qui existent comme ça, simplement.
Insère
le nom d'une date day. .com et genre, is it christmasday.com ou is it des petits sites mono-usage comme ça?
Pour les fans de hockey, ça me faisait penser à la dernière fois qu'un joueur avait scoré un but. Ça a plus d'un an, sans compter un but.
Ah, c'était quel joueur, je ne me rappelle plus?
Ce joueur du Canadien, là.
Ouais,
je ne sais plus de son nom. Là. Ouais. J'ai oublié qu'il existe.
Aïe, aïe, aïe. Sinon, toi, le hockey, ça te manque pas trop.
Pas pantoute. Moi, je suis plus football américain, alors.
Ouais. Donc, justement, monsieur qui. Justement, tu es dans une ligue.
Semi-professionnelle.
Semi-professionnelle. Donc, tu as été à Lévis récemment. Pas trop cabossé.
Non, ça, j'ai pas si pire. Mon chiro trouve que je ne suis pas si pire pour quelqu'un de mon âge. Malgré que j'ai probablement quelques vertèbres pas soudées, mais qui bougeaient pas très, très beaucoup.
Ouch!
Alors, à chaque séance, il me fait tout craquer.
Bon. Bon, ben écoute, on va aller tout de suite de ce pas dans les nouvelles. Quelque chose, je me rappelle pas vraiment si je l'avais mentionné ou pas. Mais CBS, il y a quelques semaines, a lancé un programme d'affiliés pour son service de CBS All Access, son service de streaming, de diffusion en continu. Donc, en fait, certains sites web qui affichent, qui font la promotion pour la plateforme, vont recevoir un peu d'argent suite à l'inscription de quelqu'un provenant de leur site web avec un code unique. Donc, en fait, ça crée un peu de remous dans le sens que... Parce que, suite à la fameuse poursuite de Axanar et tout ça, plusieurs personnes que je pourrais presque qualifier de mauvaise foi ou peut-être juste mal informées se sont mis à dire « Bon, ça y est, CBS ne supporte pas ses fans, ne supporte pas Star Trek. Les fans de Star Trek, c'est le pain et le beurre et tout ça. » Puis bon, et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de sites. Donc, on parle d'ailleurs... La série Star Trek Continues a un lien affilié officiel. C'est celle qui a vraiment fait le plus gros, la plus grosse exclamation parce qu'il s'agit vraiment d'un fan film en tant que tel et surtout d'un fan film qui ne respecte pas nécessairement toutes les règles prescrites par CBS, mais qui ont quand même toujours gardé un bon esprit de collaboration avec CBS, les ont toujours honorés, les ont toujours respectés. Donc, je pense...
S'ils ont demandé la permission, déjà, là, ça...
C'est ça. Tu sais, surtout qu'on... Vic Mignotta, qui est quelqu'un de très professionnel, qui travaille, justement, dans le domaine artistique, il est très connu au niveau de l'animé, parce qu'il fait du doublage pour beaucoup de séries animées. Donc, lui, tu sais, il s'arrange pour être dans les bonnes grâces de CBS. Donc, c'est sûr que ça l'aide là-dessus. Cependant, eux autres le font purement bénévolement. Ils ont refusé de prendre l'argent offert par CBS, même si c'était dans leur droit. Ils ont simplement dit, nous autres, ça fait plaisir de promouvoir Star Trek et pour remercier CBS de continuer à faire Star Trek. Donc, eux, malgré le fait que c'est une fan série, ne retirent pas d'argent de ça. Cependant, il y a quatre sites web de plus ou moins reliés à Star Trek qui ont été ajoutés à cette liste. Donc, on parle de Star Trek Fan Productions, qui est un site web, un blog qui parle justement des fan films, des divers fan films. Le Hollywood Sci-Fi Museum, l'entreprise de Thomas Hiddleston, je me rappelle bien son nom, celui qui avait, il y a plusieurs années, récupéré les décors du Star Trek Experience.
Oui.
On a réussi à faire un musée de science-fiction. On en avait parlé au cours de quelques épisodes. Nos amis australiens de trekzone.org, ainsi que le podcast Trek Geeks, donc, ont ajouté à sa liste de partenaires. Donc, il s'agit d'un projet pilote de CBS qui risque de s'agrandir. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'il y a un autre blog. Si je ne me rappelle plus de son. C'est. Un autre blog sur des fanfilms, mais celui-là. Il n'a pas été soit accepté ou a été mis en dessous de la en dessous du tapis. C'est parce que c'était un, comment dire, quelqu'un qui était très vocalement un supporter très vocal de Alec Peters et de Aksanar. Donc je peux très bien comprendre pourquoi CBS a décidé de le mettre en dessous du tapis.
Okay. Et
c'est entièrement dans leur droit aussi, parce que ce qui est drôle, c'est que M. Jonathan Lane de ce blog-là aussi parti une espèce de mouvement de protestation qui s'appelait Project Small Access, qui invitait les gens à pas nécessairement boycotter CBS All Access, mais à partager leur à le regarder en plus, en le regarder en faisant en sorte qu'il y ait le plus de gens qui le regardaient en même temps à partir d'un seul compte pour limiter la quantité d'argent qu'il y aurait à donner à CBS pour pouvoir voir la nouvelle série de Star Trek. Le plan a plus ou moins foiré. C'est plus devenu un autre forum pro-Aksanar que d'autres choses. C'est probablement une des raisons qui ont fait en sorte qu'il n'y a pas passé au travers de ce processus de sélection-là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sinon, ben, on peut féliciter notre ami Manu Interiami.
Oui, j'ai suivi jusqu'à la dernière seconde.
Donc, il a atteint $101,777 de la part de 1007 supporters. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même un bon 100 000 $. Bon, on enlève la cote de Kickstarter, la cote pour les prix, tout ça. Ça laisse probablement un bon, quelque chose comme un bon 80-75 000 pour faire, si c'est pas son épisode pilote, au moins peut-être même 2-3 épisodes supplémentaires. Parce que ce qu'il disait, c'est qu'il avait besoin de 50 000 pour faire l'épisode pilote.
Il voulait 100 000 pour améliorer les effets spéciaux
de l'épisode. Il disait qu'avec 200 000, il aurait pu faire la série au complet. Donc, ouais. On est comme un peu à moitié. Donc, faut dire aussi que c'est difficile de marketer quelque chose qui n'existe pas. Ouais? C'est pour ça que plusieurs fan-films ont utilisé Star Trek, genre justement Aksanar, qui avait utilisé le brand de Star Trek pour mousser sa collecte de fonds, parce que c'est quelque chose que les gens reconnaissent, quelque chose que les gens peuvent aisément s'accrocher à. Tandis que lui, bon, il y avait quand même les acteurs, il y avait son propre star power à lui-même. Mais c'est ça. Donc, 100 000 pour un projet de film qui n'est pas un fan film, qui n'est pas Star Trek, c'est quand même très bien. Félicitations. Et personnellement, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Donc, c'est sûr. Donc, comme tu disais, Marc, Stretch Goal numéro 2, c'était vraiment pour avoir des effets spéciaux pratiques et non pas tout en green screen. Donc,
et moi, j'ai fait mon pledge de 2$. de 1$, je l'ai augmenté à 2$ avant-hier pour la dernière journée.
C'est bon.
Mais j'ai fait tout ça, bien sûr, pour Parlons Trek.
C'est bon. Et grâce à toi, ça tombe un beau chiffre. Un beau total de 101,777. Tu sais, c'est quand même...
Faut dire que t'as ton don aussi que t'as fait. Hein?
Ouais, là, $25. C'est pas... C'est ça.
Mais, moi, je vois juste avoir ma carte numérique, mais...
Ah, c'est pas rien non plus. Donc, pas ça. Moi, j'ai donné un petit $25 US pour avoir mon nom dans les crédits. Il y a un stream du film.
Mais je me sens qu'il donne un poster à tout le monde. j'ai vu poster donné à tout le monde autographié.
Ah, c'est bon. Mm. Il y a au moins 1000 posters signés dans ce cas.
Ouais.
Ça peut-être à partir de certains niveaux, là, je sais pas.
Je sais pas, mais il a dit pour tout le monde. Ah. Alors.
C'est dit pour tout le monde.
Moi, je suis le 854e.
Ah, bon. donc, encore, félicitations à Manu pour ce bel accomplissement. Sinon, petite nouvelle intéressante concernant notre ami Rainn Wilson. Donc, certains qui le connaissent à propos de The Office. Donc, on sait qu'il va jouer Harry Mudd dans Star Trek Discovery. Le magazine officiel de Star Trek a mentionné qu'il serait dans de multiples épisodes de la première saison.
Ouais, de toute façon, si j'ai bien lu sur son Twitter, il se ramassait, il prenait l'avion pour Toronto cette semaine.
Alors. Ouais, donc il va peut-être... Puis d'ailleurs, je vais mentionner quelque chose que j'ai oublié de mentionner le dernier épisode. Durant la présentation, la semaine dernière, il a mentionné qu'il était en train de filmer le sixième épisode. Oh. Donc, ça veut dire que Harry Mudd va être là à partir du... probablement du numéro 6 ou du numéro 7.
Ben, on sait pas. C'est-tu en ordre qui fait les tournes?
Ben, ça... J'ai l'impression qu'ils font en ordre.
Oui, parce qu'ils ont peut-être tourné juste les Klingons en premier, puis après, ils vont faire... ils font faire tous les épisodes d'Harry Mudd, ou...
Ça, je sais pas. Ça, c'est... J'ai plus l'impression qu'ils filment ça d'une manière linéaire, parce que...
C'est linéaire, c'est déjà ça.
Parce que... ben, autant qu'ils peuvent, là, peut-être pas l'épisode... l'épisode en
tant que complet, là,
peut être filmé dans le désordre, mais la production d'épisodes, généralement, c'est faite dans l'ordre, simplement parce que, bon, c'est plusieurs... si c'était le même réalisateur tout le long...
Ouais, OK, ouais, c'est là, vrai, c'est différent, ouais.
Ça pourrait plus se permettre de filmer dans le désordre pour tout. Sauf que puisqu'on parle de plusieurs réalisateurs, donc c'est pour ça. D'ailleurs, justement, ceux qui attendent la nouvelle série de Twin Peaks, je sais que David Lynch, lui, justement, a filmé la nouvelle série de Twin Peaks tout d'un coup, là, justement, là, comme si c'était un gros film.
OK.
Puisque c'est lui qui réalisait tous les épisodes. Donc, justement, donc dans ce cas-là, c'est probable qu'il va pouvoir plus se permettre de filmer dans l'ordre qu'il y a de besoin, puisqu'il a mentionné qu'il allait diviser les épisodes une fois que tout qu'il avait fait le choix d'où couper pour chaque épisode après que tout a été filmé. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, sur IMDb, moi, j'avais vu qu'il serait là pour 9 épisodes, mais encore là, ça veut pas nécessairement rien dire, IMDb. C'est pas toujours de l'information exacte. Parce qu'il peut être crédité pour 9 épisodes, mais ne pas apparaître nécessairement dans tous aussi.
Ouais, il a peut-être juste parlé de lui.
C'est ça. Ben, il apparaît, tu sais, dans le dernier épisode de Star Trek Discovery Play, il apparaît dans un flashback. Je pense qu'ils sont quand même obligés au moins de lui mettre un crédit, au moins dans le générique. Donc. C'est cela, donc. Plus de Harry Mudd. Je suis vraiment curieux de voir comment tout ça va s'agencer dans l'ensemble. Je sais pas s'il va avoir rapport à... C'est sûr qu'il va avoir rapport à l'arc de la saison, mais je suis vraiment curieux de voir comment ils vont intégrer ça. Donc, quand même le fun. Sinon, au niveau... on va des babelles de Star Trek Discovery. Cool. La fameuse compagnie McFarlane Toys a ajouté Star Trek Discovery à sa liste de licences. Donc, on a appris ça hier. Va falloir prendre la patience parce que ça, la ligne pour Star Trek Discovery va être au printemps 2018.
OK.
Donc, on parle ici de jouets, de figurines. Donc... Leur premier jouet va en fait être une figurine de 7 pouces, Captain Kirk et Captain Picard. Ouh. Et c'est des figurines articulées. Donc, quand même, c'est j'ai hâte de voir ça. Donc, c'est ça. Donc, ben, c'est quand même une très bonne compagnie. C'est vraiment Todd McFarlane. Il fait une très bonne... généralement, ils ont quand même une bonne réputation pour faire des bonnes figurines.
Oui.
Fait que... Et en fait, pour... ils ont déjà fait une figurine de Sacha pour Walking Dead, donc ils n'auront pas trop de misère à en faire une pour Commander Burnham.
Non, ils ont déjà le visage.
Ouais.
Ça va être moins compliqué.
On va changer la coiffure dessus.
Ouais.
Sinon, ben, pour ceux qui se demandent, Diamond Select Toys, DST, va rester quand même un licencié de Star Trek. Donc, ils vont continuer ils sont supposés faire un USS Reliant bientôt. Et ils travaillent encore sur un phaser de TNG qu'on surnomme le Cobra Head. Ils vont construire quand même justement à faire des vaisseaux puis à faire des figurines. Je sais pas si. Peut-être que les figurines vont plus aller à McFarlane Toys. Mais en tout cas, eux vont quand même continuer au moins à faire leurs vaisseaux, qui sont quand même de très bonne qualité généralement. Là. Et on risque d'avoir, à ce niveau-là, on risque d'avoir pour les deux, plus d'informations au Comic-Con de San Diego, puisque c'est là que justement les grosses nouvelles par rapport aux jouets vont se donner. Eh bien, écoute, moi, c'est pas mal ce que j'avais au niveau...
des nouvelles.
Au niveau des nouvelles. Bon, écoute, on peut pas passer à côté de ce faux scandale. Parce qu'évidemment, l'Internet étant ce qu'il était, ah mon Dieu, il n'y a pas d'homme blanc pouvoir dans Star Trek Discovery. Mais c'est quoi? Mais c'est un génocide blanc, puis le patriarcat,
et
tout ça. Bon, écoute, ça, c'est... Mais généralement, ce que j'ai pu remarquer, ceux qui lâchent ce genre de commentaires-là, c'est des tu sais, c'est le genre de commentaires YouTube. Donc, c'est pas nécessairement des fans non plus.
C'est du monde qui sont là, puis ils cherchent du like sur leurs commentaires.
C'est ça, tu sais, ils cherchent souvent la controverse. Mais quand j'ai vu quand même des commentaires un petit peu désagréables, mais on s'entend que c'est pas la norme. Dans les groupes de fans, ce genre de commentaires-là est vraiment ne passe vraiment pas. Là. On s'entend, Star Trek est une série progressiste et l'autorité le sera toujours. Surtout qu'elle a été créée à la base par Brian Fuller, qui lui-même est un... Écoute, c'est un gars qui aime genre, créer la polémique et qui aime sortir des normes. Donc, c'est sûr que ça va rester dans l'ADN de l'émission. Donc, mais quand même, c'est... Mais honnêtement, c'est ça. C'est souvent... Puis encore là, quand j'ai vu ça dans les commentaires sur des groupes Facebook, c'est souvent les Américains hein, qui vont lancer ce commentaire.
Tout le temps.
C'est tout le temps des Américains, et souvent, mystérieusement, des Américains du sud des États-Unis. Et je n'ai vu même une couple avec...
Hey, c'est des préjugés, ça, JP.
Ah, écoute, ça joue des deux côtés, ça. Mais tu sais, histoire vraie, j'ai vu des gens avec un drapeau confédéré comme image de profil dans un groupe de Star Trek. Personnellement, je pense pas que ça a vraiment sa place, tu sais.
Non.
Mais, encore là... Qui suis-je pour juger?
C'est ça. T'es juste un GP.
Je suis juste un GP. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sinon, ben la réception du trailer, honnêtement, je pense qu'elle était beaucoup plus positive que je l'anticipais au départ. Les gens sont vraiment excités. Ils aiment beaucoup.
Oui, mais j'ai vu les statistiques de like puis de dislike.
Oui.
Ah, une méchante différence.
Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr que, bon, l'affaire, faut toujours se dire, les détracteurs vont toujours être plus vocaux que les supporters. Les supporters vont regarder le trailer, ils vont donner un like si ça leur tente, ils vont passer à d'autres choses, tu sais.
C'est ça.
Les détracteurs, ben ils vont faire un gros unlike, puis ils vont se lâcher dans la zone de commentaires pour... expliquer exactement pourquoi c'est pas acceptable pour eux autres. Puis bon. En gros, essayez d'être. Si vous aimez quelque chose, essayez de contourner la statistique. Puis faites un like et allez commenter. C'est toujours apprécié par ceux qui créent le contenu et ça l'aide à débalancer le niveau de. Détracteurs vocaux versus supporteurs muets.
Imagine qu'on va finalement voir le docteur Stamets, ça?
Stamets,
qu'on va voir qu'il est homosexuel. Il est déjà là. Nos amis du Sud, ils vont s'assaler. Allez!
Ah, écoute, si on se rappellera, en 1969, avec Plato's Stepchildren, quand Captain Kirk embrasse Uhura, ça a vraiment pas passé dans ce qu'on appelle la Bible Belt, dans les États, justement, plus sud du Sud. Il y a des stations de télévision qui ont littéralement refusé de diffuser cet épisode-là parce que ça on affichait un homme blanc qui embrassait une femme noire. Ça se faisait pas à cette époque-là.
Ah, c'est dégoûtant. C'est incroyable.
Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ça, écoute, moi, je vais juste mettre un petit peu de musique et on va revenir après la pause. J'ai été chercher la musique provenant du trailer Netflix de Star Trek Discovery. Donc, il s'agit de « My Tears Are Becoming a Sea » par le groupe M83. Donc, on va mettre ça en musique et on va revenir par la suite. Donc, vous écoutez « Parlons Trek » sur les ondes de puissance maximale. On revient après la pause. Et vous écoutiez « My Tears Are Becoming a Sea » par le groupe M83. Parlant de ce groupe, donc M83, il s'agit d'un groupe français, si je me fie bien mes informations. Oui, c'est un groupe de musique électronique français qui est dirigé par Anthony Gonzalez, qui réside présentement à Los Angeles, donc formé en 2001 à Antibes, en France. Le band était initialement un duo avait aussi Monsieur Nicolas Fromangeau. Donc ils ont quand même 7 albums, 2 soundtracks incluant ils ont été nominés aux Grammys pour Hurry Up, We're Dreaming. Donc, quand même, bon, un petit peu de France dans Star Trek Discovery, déjà, c'est bien.
C'est bien.
Même si c'est juste la musique du trailer, c'est quand même quelque chose. Moi, je me rappellerai de la musique qu'il y avait dans le trailer de Star Trek Enterprise. C'était, je pense, le groupe The Calling. Je me rappelle.
Oui, oui, oui.
I hear you. Ta 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 ta. Donc, je m'excuse pour ça. Mais.
Donc, ça, je vais m'en remettre, JP.
Ah, c'est correct. Mais je dirais, c'était-tu dans un des anniversaires de Star Trek Québec? Je pense que c'est le 5e ou le 6e?
C'est que, impossible.
Que notre cher Daniel Filion avait interprété la chanson.
C'était pas l'Halloween.
Ah, ça se peut.
Dans nos célèbres karaokés.
Ouais, ouais, ouais. En tout cas, donc c'est ça. Donc, c'est une des rares. C'est quand même, on peut quasiment compter le nombre de. Sur les doigts d'une main, là, le nombre de fausses que des chansons commerciales ont utilisées dans Star Trek. Puisque, bon, on s'entend que le coût d'une licence pour passer de la musique dans un film ou dans une série est quand même très onéreux. Donc, généralement, ce que Star Trek faisait, c'est qu'il soit bon, créait de la musique ou qu'ils utilisaient de la musique qui était absente, qui n'avait pas de droit, donc généralement de la musique classique. Donc, c'est
pour ça. Oui, il y en a énormément.
C'est pour ça que Captain Picard avait des goûts musicaux un petit peu.
Il aime beaucoup jouer de sa flûte.
Donc, c'est cela. Sinon, ben écoute, on est, ben, présentement, on disait, le 25 mai, donc au mois de mai, généralement, c'est comme une tradition au niveau de la télé. Les fins de série. Là, on va parler spécifiquement des fins de série et non pas des fins de saison. Donc, Star Trek, on en a connu 5, puisqu'elle a 5 séries. Donc, on va juste faire un petit tour de ces fins de série-là ensemble afin de se remémorer. Donc, c'est ces derniers passages télévisuels. Donc, ben, évidemment, le premier, Star Trek, la série originale. Bon, on a un épisode qui est très moyen déjà là au départ. En fait, qui n'était pas prévu pour être une finale parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas vraiment de finale scriptée pour une série. La série arrêtait généralement quand le studio était tanné. Donc, on parle ici de Turnabout Intruder, le fameux épisode où ce que le Captain Kirk et Janice Lester échangent leur conscience et échangent de corps. Et personnellement...
Ok, ouais, je me rappelle cet épisode-là. Okay.
On a le droit à des beaux screen caps de Shatner en train de perdre la boule. Je pense que c'est peut-être... Je sais pas si c'est son meilleur jeu d'acteur, mais il était il était quand même très exagéré. Donc, écoute, c'est dans ce fameux épisode où on mentionne qu'aucune femme ne peut commander un vaisseau spatial et...
Ouais, c'était pas sexiste.
C'est pas sexiste. Donc, tu vois, ça fait partie des choses que je suis quand même... que je n'ai aucun problème à changer dans l'univers de Star Trek. C'est pas parce que c'est mentionné dans un épisode... Encore là, tu sais, je veux dire, il y en a qui disent oh, on peut mettre un petit peu de contexte, mais personnellement, je pourrais juste aussi bien faire comme si ça avait jamais été mentionné. J'ai pas la quote exacte, là, mais en tout cas, ça. Donc, il n'y a pas de place pour les femmes dans votre monde. Fait que, tu sais, c'est pas exact. T'sais, ça dit pas, bon, les femmes sont interdites de, mais. C'est peut-être aussi... Encore là, tu sais. Ça peut être autant comme une femme n'est pas nécessairement bienvenue dans le monde de la construction, dans un métier purement masculin, mais où légalement, elle a le droit d'exercer son travail. Mais évidemment, les gens ont tendance à interpréter au pied de la lettre. Donc, c'est ce qui arrive dans ces moments-là. Donc, on parle d'un épisode de KHT. Seconde, diffusé le 3 juin 1969, écrit par Arthur Singer, selon une histoire de Gene Roddenberry et réalisé par Herb Wallerstein. Donc, c'est ça pour la série originale.
Ensuite,
on tombe évidemment à Star Trek The Next Generation. Donc, avec le fameux épisode All Good Things, donc le premier vrai épisode final de Star Trek. Donc, ici, on parle de saison 7, épisode 25 et 26, donc un spécial de 2 heures. En fait, Star Trek Next Generation, il y avait eu le choix, apparemment, à ce que j'ai lu, entre soit une 8e saison ou un film. Bon, les studios ont décidé de faire un film. Je dirais presque malheureusement, quand voyant ce qui est advenu de Star Trek Generations. Mais bon, on va... c'est le fameux épisode de ce qui se passe dans trois timelines du Capitaine Picard. Donc, le présent, le passé, donc le moment où il vient d'arriver sur l'Enterprise, juste un peu Encounter at Farpoint, et le futur, donc, où ce qu'on le voit en tant que vieux, vieux bonhomme. Donc, vraiment, c'est un geste. C'est un très bon épisode, je pense, qu'il est très... Pour une série qui n'avait pas de trame narrative, un peu comme DS9, c'est très, très bien. On fait un lien avec un peu ce qui s'est passé au cours de la série. On voit justement Q, le fameux jugement qui a été revisité, le jugement de Encounter at Farpoint. Et on voit aussi quelques vaisseaux. Donc, on parle ici de la première apparition du Negvar. Donc, le gros, gros, gros vaisseau Klingon qui, en fait, le modèle a été fait pour All Good Things et qui ensuite a été réutilisé dans Star Trek Deep Space Nine au début de la saison 4 pour faire, en fait, le vaisseau de Garron. Donc, moi, personnellement, j'ai... j'ai vraiment bien aimé ce... Je sais que toi, t'es pas encore rendu... Je sais pas, tu l'as vu à l'époque, là, mais...
Ouais, mais je suis complètement tout oublié, les épisodes.
En fait, l'épisode a été diffusé le 23 mai 1994, écrit par Ronald D. Moore et Brennan Braga, et réalisé par Rich Colby. C'est quand même ça. Donc, personnellement, c'est un très bon épisode. On voit aussi le fameux USS Pasteur. Donc, le vaisseau du capitaine. Ben, du capitaine Picard, mais le capitaine Beverly Picard.
Ouais.
En fait, qui serait peut-être un hommage au fameux Daedalus, ce fameux vaisseau qu'on n'a jamais vraiment vu, mais qui semble une espèce de une grosse boule attachée à une espèce de cylindre. Ça fait un peu comme la Discovery dans 2001 de l'espace.
Ouais.
Donc, pour Starfleet, c'était peut-être un peu rétro comme design, mais quand même. Et en fait, c'est aussi la première apparition des uniformes futuristes de Starfleet. Donc, qu'on a revu justement dans la finale de Star Trek Voyager, dans un autre épisode de Star Trek Deep Space Nine, The Visitor. Donc, on voit ce design futur d'uniforme de Starfleet. C'est là qu'on l'a vu en premier. Par la suite, évidemment, on parle de What You Leave Behind, ce fameux épisode, le dernier de Star Trek et Deep Space Nine, qui, en fait, lui, vraiment, vient conclure toute la narrative de la série au complet, principalement de la 6e et 7e saison. Évidemment, on parle de la fin de la guerre contre le Dominion. Avec la résistance qui se trouvait sur Cardassia, l'attaque de la Fédération contre les... justement, l'alliance cardassienne, Breen et Dominion, et avec ce fameux comment dire, ce retour de situation quand que les Cardassiens se sont retournés contre le Dominion à la dernière minute. En fait, quand, au moment où le Dominion a décidé de punir les Cardassiens en commençant à les éliminer sur la planète. Donc, il y a beaucoup de poids, beaucoup de gravitas. On sent vraiment que, tu sais, un peu comme dans All Good Things, ils prennent vraiment le temps aussi de dire au revoir aux personnages. Surtout, évidemment, dans plus vers la fin, quand ils sont chez Vix et qui font un toast, et on voit que les personnages vont chacun de leur côté. O'Brien retourne sur la Terre. Odo qui retourne sur sa planète. Donc, chacun prend son côté. Donc, et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est qu'on... Personnellement, que je vois, c'est la ligne directrice avec avec Ducat et Wynn, où ce que, bon, les prophètes et tout. On dirait que ça donne vraiment l'impression que ça a été rajouté à la dernière minute. Je fais comme, oups, on a oublié ça, puis ils ont comme inséré ça à la toute fin. Mais, personnellement, c'est l'impression que ça me donne. Mais bon, c'est pas mal ça. Donc, on parle d'un épisode qui a été diffusé le 2 juin 1999. Écrit par Ira Steven Bear, Hans Blimer, et réalisé par Alan Krohenker. Et là, on va évidemment à une série qui est fétiche pour beaucoup de gens, Star Trek Voyager.
Voyager.
Donc, personnellement, c'est l'épisode avec... Je dirais pas que j'ai de la misère, mais... bon, c'était assez clair qu'elle allait revenir sur Terre à la fin, là, je veux dire.
Ouais.
Il n'y avait aucune question à ce sujet-là. La question était vraiment comment il allait le faire. Et je pense que c'est venu sans surprise qu'évidemment, c'était les Borg. Donc, c'est grâce aux Borg. Ils ont rajouté la petite touche de Future Janeway.
Ouais.
Janeway du futur, ce qui est quand même pas mal. Personnellement, je sais pas. Moi, je trouve que Star Trek Voyager ont comme brisé les Borg un peu. Ils ont trop démystifié un petit peu tant qu'à moi. Le fait, je sais pas. C'est le genre d'épisode que j'aurais quasiment pu écrire. N'importe qui pourrait écrire sur un coin de table, disait bon, les Borg, ils trouvent un raccourci, Borg insère quelque chose pour faire en sorte qu'on puisse combattre les Borg. Encore là, c'est comme quand ils ont installé les torpilles transphasiques et l'armure radiative rendant le vaisseau invincible. C'était comme, bon, ça y est, c'est comme j'ai gagné la partie, je peux rentrer chez nous. Tu sais.
C'est quand même la série Voyager qui ont inventé le plus d'affaires comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est une série qui...
ils ont tout remodifié à zéro, toutes les affaires pour battre tout le monde.
Ouais. Il se fiait beaucoup sur le techno-babble, le blabla technique. Pour
le trans-warp.
Ah, écoute, c'est incroyable. Je peux comprendre aussi, c'était la motivation d'aller de rejoindre le territoire de la Fédération.
Ouais.
C'est sûr que... Mais quand même, moi, c'est surtout, il y a quelque chose, en fait, qui brise beaucoup Star Trek dans cet épisode-là. C'est que Voyager revient avec une armure pesant impénétrable qu'ils ont été capables d'adapter sur le vaisseau, donc qui ne devrait pas être... et qui vient de quoi? Quelque chose comme 20-30 ans dans le futur, donc qui n'est pas impossible à répliquer, avec des torpilles encore, des torpilles qui détruisent un cube Borg en deux coups. C'est comme... Bon, tu sais, encore là, je veux dire, ceux qui veulent... C'est ça, pour moi, personnellement, c'est ça qui a comme un peu brisé la possibilité, ou pas vraiment la possibilité, mais... Le désir d'avoir une série qui se passe après Voyager, après Star Trek Nemesis, c'est le fait que, ben, avec ce Voyager ramené, il n'y a plus grand challenge, là, tu sais.
Ouais.
C'est comme un petit peu, comme on dit dans le monde des jeux en ligne, c'est un peu OP, overpowered. Ce sera une conversation pour un autre jour, donc peut-être parler de... Si on fait une... Si si après Discovery, on fait une série après Nemesis, peut-être voir comment annihiler ses... ou voir comment nullifier ses bonus.
On va voir comment ils vont réussir.
Ouais. Et évidemment, bon, on parle donc... ça a été diffusé le 23 mai 2001. Donc, justement, il y a bientôt 16 ans, là. Ça a été écrit par Kenneth Biller et Robert Dorothy. Et avec, dirigé encore là par Alan Coranker. Et bon, on arrive à celui que les gens adorent détester, donc These Are the Voyagers, le fameux épisode final de Star Trek Enterprise, qui est personnellement bon. Ça va, Marc?
Excuse-moi, ma toux m'aide pas.
Ah, bon. Donc, c'est l'épisode final de Star Trek Enterprise. Pour tout le mal qu'on peut en dire, je suis quand même content qu'il y ait. Montrer la création de la Fédération qui a été quand même faire ça. L'inclusion de Troy et de Riker était peut-être pas nécessaire.
Ouais. Elle
était un petit peu superflu. Et le trépas de Trip Tucker aussi. Mais personnellement, je l'aime pas autant que certains voudraient l'avouer. Il y a juste vraiment les, comment dire, tu sais, les lignes sur le visage là, des deux acteurs qu'on voit que, tu sais, ça faisait 10 ans, même un petit peu plus, ça a été filmé 10 ans après cet épisode, l'épisode de Pegasus, qui était supposé être l'épisode dans lequel eux autres se trouvent. Ça paraît un petit peu dans leur visage. Mais c'est vrai, quelque chose, en fait, cet épisode-là se passe techniquement entièrement sur le holodeck. Donc, il y a plusieurs gens qui disent « Ah, mais c'est la série au complet qui se serait passée dans le holodeck. » Non, je dis « La série au complet, non. » Mais l'épisode, possiblement, dans le sens que la mort de Trip était peut-être juste programmée là pour rendre le programme un petit peu plus dramatique. Tu sais, un petit peu, dramatiser un peu le programme holographique. C'est pas la première fois qu'un documentaire ou qu'un film historique va embellir ou dramatiser un petit peu plus la vie réelle. Donc, c'est pour ça que probablement, je prendrais ce qu'on voit dans l'épisode un petit peu avec un grain de sel. Parce que je pense que même dans les séries de livres, dans les romans qui ont suivi, suivant cette finale-là, justement, ils ont comme dédramatisé certains éléments, là, en mentionnant que bon, mais c'est peut-être pas vrai. Ça, c'est un petit peu plus de recherche parce que j'ai pas lu les livres de Star Trek Enterprise, mais je suis pas mal certain qu'ils avaient ramené Trip Tucker. Mais ça, c'est à confirmer. Mais pour moi, la vraie finale reste les deux épisodes d'avant. Donc, on parle de Demons et Terra Prime avec justement le super Peter Weller, Monsieur Robocop. Mais c'est ça. Donc, These Are the Voyagers, écrit par Rick Berman et Brandon Braga, réalisé encore toujours par Alan Coranker. Donc, en fait, ça, personnellement, je verrais plus ça comme une finale de Star Trek en général, plus qu'une finale de Star Trek Enterprise. Et je verrais Demons et Terra Prime comme une finale de Enterprise. Personnellement, c'est comme ça que je verrais ça. Donc, ça conclut pas mal.
Nos anniversaires.
Ouais, c'est pas mal tout entre mai et début juin. Donc, c'est cela. Donc, on va espérer que les finales, que la finale de Discovery soit tout aussi légendaire. J'ai hâte de voir. J'ai déjà hâte de voir la finale. Là, c'est... Mais vraiment, on verra pour ça. Donc, sinon, ben toujours dans la lignée de la recherche pour ce fameux événement de l'histoire de Star Trek qui est mentionné, mais jamais exploré, on a regardé cette semaine l'épisode The Sword of Kalis, donc Star Trek Deep Space Nine, saison 4, épisode 9, et diffusé pour la première fois le 20 novembre 1995. Donc, pourquoi je mentionne, pourquoi je pense qu'il y aurait quelque chose à voir avec Star Trek Discovery dans cette série-là, c'est évidemment de la présence, on parle des Herc, donc le Herc, ouais, qui est une espèce qu'on n'a jamais vue, mais qui, Herc, en Klingon, veut dire étranger.
Ben, moi, j'ai plus lu, pas étranger, mais groupe plus en nomade, là.
Ouais. Ou envahisseur. Ou...
Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ce serait la race qu'ils ont envahi à l'époque. Donc,
ils auraient envahi au 14e siècle. Mais là, on se demande, mais pourquoi ça a rapport avec Discovery qui, lui, se passe au 23e siècle? Ben, simplement parce que ça pourrait justement être... les Herc auraient pu kidnapper des Klingons, les mettre en stase et les avoir oubliés en quelque part. Et ça pourrait être, ils pourraient justement avoir récupéré non seulement les Klingons eux-mêmes, mais peut-être des artefacts Klingons.
Comme l'épée de...
Comme l'épée de Kalis. Donc, donc, moi, c'est ce que j'en pense. Mais tu peux me... Tes impressions générales de l'épisode?
Ben, moi, j'ai aimé ça. Ça m'a fait pas mal penser. Celle-là, je ne m'en rappelais plus de l'avoir vue. Okay. Peut-être que je l'avais même jamais vue. Mais ça me fait pas mal penser au Seigneur des Anneaux, dans le sens que les deux veulent garder l'épée. Hein, on parle de Worf et de Kors.
Ah, ben oui.
Alors, tu sais, c'est le combat qu'ils font, là, tu sais, un bout où ce que Koss manque tomber, puis ils se retiennent tous les deux juste par le battelette, puis et même, lâche, il y a une... Non, je lâcherai pas, je mourrai pas, j'aime mieux mourir. C'est super drôle.
Ouais, j'avoue que ça fait comme Smeaga et l'anneau. Non, j'avoue, c'est une très belle analogie.
Et le pincement au cœur que je vois à la fin. Qu'est-ce qu'ils font aux battelettes? Ah, c'est triste!
Ouais, non, j'avoue. Mais je me rappelle dans Star Trek Armada 2, à un moment donné, t'as Worf qui va chercher, qui retourne dans le cadran Delta pour unifier les Klingons et les battre, je pense que c'est les Borg, ou pour justement unifier les Klingons. Donc, justement, si on se rappelle, dans le trailer de Star Trek Discovery, il mentionnait justement, c'est Salah Sarek qui parlait de un grand unificateur, donc.
Ouais.
L'épée de Kalis pourrait. Ou ben, peut-être pas nécessairement l'épée, mais ça pourrait être un autre artefact ou soit simplement l'ADN des Klingons qui s'y trouvaient pourrait être quelque chose qui servirait à unifier les Klingons. Mais pour en revenir à l'épisode, donc évidemment, le légendaire Core, donc. Joué par John Koulikos, qui est le Klingon original qu'on a vu dans Errand of Mercy.
Le grand chum de Dax.
Oui, le très grand chum de Dax. Donc, qui était posté sur Vulcain comme ambassadeur et qui se fait donner par une expédition un bout de tissu.
Oui, exactement.
Et qui daterait, qui avait des traces qui dataient justement de cette époque-là. Donc, ça les a menés dans le cadran gamma. Donc,
Shadia a détecté que le tissu avait justement 1400 ans et il avait de l'ADN de Klingon.
Bon. Donc, justement, et Worf, qui avait récemment rejoint la série, donc on parle quand même, c'était le 9e épisode de Worf dans Deep Space Nine. Donc, c'est un bel épisode pour le mettre en valeur, je crois. Et donc justement, ils servent de ça pour retrouver l'artefact. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils l'ont trouvé relativement tôt, mais c'est vraiment tout le chemin du retour qui est vraiment l'aventure.
Ouais, avec le retour de Duras, c'est
ouais,
ça, Duras?
Oui, le fameux ouais. fils de Duras qui est épargné par Worf durant la guerre civile Klingon.
Quand Garon y avait laissé le choix de pouvoir le tuer.
Oui.
Et qu'il l'avait épargné.
Comment tu vois, Worf, ce faible Klingon.
Il se le fait remettre aussi.
Oui, en tabac.
Sur le nez.
Généralement, moi, j'ai un épisode que j'aime bien. Il rajoute beaucoup de mythos au Klingon. On voit les Duras, beaucoup d'actions de tricordeur.
Oui.
Mais non, c'est ça. On voit justement l'amitié entre Worf et Kor qui se développe. Entre les trois personnages, donc Kor qu'on revoit plus tard dans la série aussi.
Il faut toujours se mettre dans la tête que Dax est très vieux.
Oui, il faut toujours se mettre ça, oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est un très bon épisode. Je vous le recommande. Et peut-être gardez ça en tête quand vous allez voir Discovery en septembre prochain. Donc, écoute, ça fait déjà une heure.
Oui. Aujourd'hui, on ne dépassera pas, je pense.
Non, je pense pas qu'on dépasse. Mais Pierre n'est pas on là
a...
pour...
C'est ça, on n'a pas notre Pierre volubile.
On a le pouvoir volubile de Pierre pour venir étendre ça. Donc, je vais simplement vous inviter à garder un œil sur le site web de Puissance Maximale, www.puissancemaximale.com. Donc, la nouvelle plateforme sera bientôt en ligne et qui va nous permettre d'avoir un blog. Donc, on va peut-être justement pouvoir se consacrer à quelques articles écrits. À propos de Star Trek et peut-être d'autres choses, on verra bien. Donc, si jamais il y a certaines personnes d'entre vous qui sont peut-être plus à l'aise à l'écrit plutôt qu'au parler, n'hésitez pas à nous faire signe. Peut-être justement avoir des blogueurs invités, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour partager justement notre passion au travers de cette nouvelle plateforme.
Ouais.
Donc, moi, j'ai pu voir un preview et j'ai vraiment hâte de voir.
J'ai hâte de le voir aussi.
Donc, sur ce, on va vous laisser avec une chanson de Warp 11, donc la chanson Don't Cling on Me. Et on va vous souhaiter une agréable soirée.
Ouais, moi, je vais juste rajouter.
Ouais.
Moi, je suis avec Manchester cette semaine.
Ah, ben oui, c'est vrai. Donc. Bon courage à ceux. Ben, je sais que ça a probablement plus affecté les gens en Europe.
Plus un milieu anglophone, mais ouais. C'est proche de nos amis de la France quand même.
C'est ça. Donc, une pensée pour vous. Et restez fort.
Et on y va en chanson.
Ah, on va y aller en chanson.
En chanson juste pour eux.
Donc, Don't Cling on Me, Warp 11. Vous êtes sur les ondes de puissance maximale. Bonne soirée.
Bye.